Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation qui dure une heure ce soir avec Charles Julliet.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Charles Julliet.
La 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 la. Bram van Velde était peintre. Né aux Pays-Bas en 1895, il meurt en 1981 dans le sud de la France. Il vit une grande partie de sa vie dans le plus grand dénuement. Une profonde misère, oui, mais au cœur de la peinture. La toile ne vient pas de la tête, mais de la vie. Tout ça échappe à la pensée, à la volonté. C'est une de ces phrases courtes que le peintre prononce lors de vos rencontres. La première a lieu en 1964, la dernière que vous racontez a lieu en 1979. Elles sont nombreuses, ces rencontres, et rares en même temps. Elles creusent un sillon de grande solitude face à l'existence et à l'art, de très grandes exigences aussi. Car au fond, ce qui semble vous rapprocher le plus de lui, Charles Julliet, c'est cet engagement vers l'inconnu, celui qui advient lorsqu'on ne vit pas pour de faux. Alors oui, il est question de peinture dans le livre que vous tirez de ces rencontres, mais il est aussi question de regard, de poésie, de littérature, de Samuel Beckett et de longues marches de silence. Bonsoir à vous, Charles Julliet.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Rencontre avec Bram van Velde, c'est le titre de ce livre qui est publié aux éditions POL. C'est une réédition qui est légèrement augmentée. Est-ce que vous gardez un souvenir précis de la voix de Bram van Velde?
Ah oui, absolument. Oui, oui. Il avait d'ailleurs un très léger accent. Il parlait d'une voix, je dirais, silencieuse, très basse, et il parlait très peu. Néanmoins, il répondait très volontiers à mes questions. Donc, comme je l'ai rencontré parfois durant des longues après-midi d'hiver où j'étais face à lui et où il ne se passait pas grand-chose, ou au contraire, quand le temps le permettait, on allait faire des longues promenades dans la campagne. Et là, bien sûr, je lui posais les questions qui me venaient à l'esprit. Et dans ce petit livre, eh bien, je rapporte toutes les réponses qu'il me donnait. Et chaque fois, j'étais surpris parce que je sentais que ces réponses ne venaient pas de sa tête, d'un savoir préétabli, mais chaque fois, elles étaient dites avec beaucoup de spontanéité.
J'ai mis ma vie en tableau. Or, peut-être on se vide aussi. Peut-être on se remplit pas, peut-être on se vide. Si je suis porté par ce que j'ai fait, par moment la chose faite même n'arrive pas à vous montrer que devant vous, il n'y a rien. Moi, je suis tout à fait lié à ce que j'ai fait, mais ça ne me porte pas en avant. Avant moi, il y a une sorte d'envie. Devant moi. On vit dans l'infusible. Et c'était la manière de voir, sinon il n'y a pas de vie. Si on n'arrive pas à montrer ce qu'est en vous, c'est quelque chose d'étrange. Oui. On ne peut pas clairement en parler. Une vie cachée qui sort.
1er novembre 1971. Brahm, toujours totalement centré sur l'indicible. Souvent, il éclate silencieusement de rire quand il prend conscience de ce qu'il vient de dire. Parfois, il semble même en être tout surpris. Et sa manière tellement singulière, en quelques mots, de rendre l'invisible soudain quasiment visible, palpable. Nous regardons ses dernières gouaches, tellement différentes de toutes celles qu'il a peintes. Et il a 76 ans. La souplesse intérieure qu'elle suppose et la vitalité jaillissante qui anime ses formes et ses couleurs. Une sensation d'ampleur, de liberté. Comme tant de grands peintres du passé, c'est maintenant qu'il réalise ses plus grandes œuvres. L'être a atteint la transparence. Il peut désormais s'annuler. Il n'offre plus d'obstacles à ce qui le traverse et vient s'organiser sur la toile. De telles gouaches sont comme les radiographies de l'état auquel il est parvenu. Ma violente émotion a évoqué mentalement toutes les années de souffrance, d'acharnement, d'échec qui furent nécessaires pour que l'être accède à une telle souplesse, une telle liberté. À tant d'abandon. Si ces gouaches ont quelque vie, c'est parce qu'elles sont vraies, qu'elles viennent de la vie, qu'elles sont nées de l'inconnu, et non d'une habitude, d'un savoir, d'une intention ou d'une recette. En écho à ce que je viens de lui dire de mon travail, il y a un moment où le sérieux n'est plus un effort, où ce travail harassant ne fatigue plus. Il faut simplement rendre ce qui vous a été donné. Parfois, on travaille, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas récompensé. La chose échappe. On reste dehors. Trop d'artistes se tiennent dans cette zone où le jeu est encore possible. Surtout, ne jamais affirmer. Si terrible qu'elle soit, cette chose ne comporte pourtant aucune tristesse.
Charles-Julien Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de votre livre « Rencontre avec Brahm Van Velde » après qu'on a écouté la voix de celui-ci, une archive de 1980 diffusée sur France Culture. Vous vous entreteniez avec le peintre et c'est vous qu'on entend acquiescer et soutenir cette parole-là.
Peut-être, oui. Enfin...
Oui, mais moi ce que je trouve très beau dans le texte que vient de lire Romain, c'est l'idée que si ces choses, toutes ces choses... les choses qu'il parvient à dire, celles qu'il ne parvient pas à dire, celles que vous parvenez à dire, celles que vous ne parvenez pas à dire, si elles sont terribles, elles ne sont pas du côté de la tristesse.
Oui, c'était, je dirais, hein, pour employer un mot peut-être un peu savant, mais d'ordre ontologique, il était d'une extrême exigence quant à la vérité qu'il vivait lui, et qu'il allait pouvoir transmettre sur la toile, vous voyez. Il était très très soucieux de cette notion, justement, de vérité, de justesse. Et bien souvent, il sentait qu'il ne pouvait pas peindre, parce qu'il n'était pas au niveau de cette vérité qu'il recherchait, là. C'est vraiment... une aventure d'ordre, je dirais, même pas métaphysique, mais peut-être qui touche à la mystique, et je dis cela en dehors de toute croyance religieuse, mais c'est toujours ce besoin d'atteindre à une espèce de perfection, de beauté intérieure, de vivacité, de contact avec le vrai. Et là, il était évidemment... Ça ne peut pas même s'expliquer. Peut-être que seules les personnes qui vivent cela peuvent se représenter de ce que c'est. Oui, ce que c'est. C'est une exigence intérieure, une exigence absolue de vérité. Et il ne pouvait peindre que lorsque, justement, il arrivait dans cette zone de la vérité, vous voyez.
Mais en vous écoutant, je me pose cette question-là. Je me dis, mais qui se lance dans ce genre d'aventure ? Quel être se lance dans ce genre d'aventure ?
Eh bien, simplement quelqu'un qui en éprouve la nécessité. Cette aventure ne peut être vécue que s'il y a là une nécessité impérieuse qui a dominé toute la vie de Bram Van Velde. Vous voyez, il se savait peintre, il était peintre, et très tôt, il a su que la peinture l'attirait. Eh bien, pendant très très longtemps, rien de lui ne se vendait, mais il lui est même jamais venu à l'idée qu'il aurait pu prendre une activité quelconque pour gagner sa vie. Ça lui était totalement étranger. Il était peintre, il fallait qu'il reste peintre, quelles qu'en aient été les conséquences, vous voyez.
Et c'est sur des conséquences difficiles parfois à assumer pour son corps, pour sa vie.
Bien sûr, bien sûr. Je sais qu'une fois que j'avais rencontré Beckett, il m'avait dit que, oui, Bram vivait dans une misère absolue. Ça n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a été soutenu par un de ses amis, Jacques Putman, et peut-être aussi Michel Guy, qui avait été, je crois, ministre de la Culture, mais ça, à la fin de sa vie. Et pendant longtemps, eh bien, surtout pendant la guerre, il me disait qu'il allait à la soupe populaire, parce qu'en tant qu'étranger, ça lui était d'autant plus difficile, je crois, d'obtenir des cartes de ravitaillement. Enfin. Et donc là, il a vraiment beaucoup souffert. Oui, oui.
Qu'est-ce que vous saviez de lui en 1964, lorsque vous le rencontrez pour la première fois?
Eh bien, ça a été très difficile, parce que en pleine inconscience, j'étais allé le voir, alors que je ne savais rien de lui, que je ne savais rien de la peinture non figurative, que je ne savais rien de son œuvre. Donc j'étais allé le voir comme ça, parce qu'un ami peintre sculpteur m'avait dit « Oh, un jour j'ai rencontré cet homme », il parlait donc de Bram Van Velde, il m'a fait une forte impression. Et donc cet ami sculpteur m'avait donné son adresse. Et un jour où j'étais venu à Paris, sans aucun objectif, sans rien à y faire, en marchant dans la rue, je mets la main dans ma poche, je trouve ce petit carnet, je trouve l'adresse, et je me dis, ben tiens, je vais aller sonner chez Bram Van Velde. Et j'ai eu une chance énorme, parce que à cette époque, il vivait près de Genève, et il n'était venu à Paris que pendant 2 jours pour signer des lithographies. Et si je ne l'avais pas rencontré à ce moment-là, eh bien, jamais je ne serais retourné le voir, parce que je n'avais aucune raison d'aller le voir, vous voyez. Et j'ai eu une chance inouïe. Et d'ailleurs, après quelques minutes de présence en face de lui, cette non-conversation a failli tourner court, parce qu'il me regardait, je ne disais rien. J'étais très intimidé. Et donc, voilà, il y avait des longues minutes de silence. Puis après un moment, il m'a dit, bah, écoutez, on va aller marcher dans la rue, et voilà. Et dans la rue, les choses se sont dénouées. Comme on était proche du jardin du Luxembourg, on a passé après un long, long moment à marcher de long en large. Et puis, sur le coup, je crois, de 8 heures, il me dit, mais si vous êtes libre, eh bien, on peut aller manger ensemble. Je dis, ah oui, mais bien sûr. Donc, on est allé dans un restaurant et je crois que j'ai dû le quitter aux environs de minuit. Mais là encore, je n'ai pas gardé un souvenir très précis de ce qu'il a pu se dire parce que moi, j'étais aussi en pleine confusion à cette époque, intimidé. Je n'avais même pas encore lu Beckett qui avait été son ami, qui était son ami. Donc, je ne sais plus trop ce que... Enfin, j'ai dû lui poser plein de questions puisque je cherchais à le connaître, mais c'est vrai que lors de cette soirée, c'était tellement inattendu que je ne me souviens de rien.
Oui, et pourtant, en le racontant à l'instant, Charles Julliet, vous avez eu comme ça un petit arrêt en essayant de décrire ce face-à-face, ce premier face-à-face silencieux, on imagine Bram Van Velde ouvrant la porte, et vous avez eu un arrêt très ému. Alors
oui,
que peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement, mais c'est qu'il y a là un moment de très grande disponibilité à l'existence, et pour vous, et pour lui, sinon ça ne vous mettrait pas les larmes aux yeux très longtemps après.
Évidemment que ça m'émeut de reparler de tout ça, parce que c'est un peu loin. Mais c'est vrai que cette amitié avec Bram Van Velde a été très importante pour moi, très très importante. Et donc,
comme un grand rendez-vous.
Oui, et puis à la fin de sa vie, comme il était très seul, qui se trouvait vivre dans une maison isolée au sommet d'une colline, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, eh bien, avec ma femme, pour toutes les vacances scolaires, on allait le voir. Et donc là, on se rencontrait, on faisait encore des longues promenades. Et bien sûr que c'était des très beaux moments.
Quand vous avez dû reprendre ces souvenirs, alors je ne sais pas si vous aviez des notes à partir de quoi travailler ou s'il n'y avait que votre mémoire, Charles Julliez, dans quel état vous mettiez-vous pour essayer de retracer, parce que c'est quand même un livre qui peut prendre la forme d'un sorte de journal.
Oui, mais vous savez, quand j'allais le voir, tout ce qu'il me disait s'inscrivait dans ma mémoire mot à mot. Donc je n'ai jamais pris des notes en face de lui, ce qu'il n'aurait pas beaucoup apprécié. Enfin, c'était pas je sentais que ça aurait été déplacé. Mais comme je me souvenais très très bien de tout ce qu'il me disait, c'est après, quand je rentrais chez moi. Au début, j'étais même surpris, quoi, d'avoir noté tout cela. Puis je me suis dit, mais quand même, il faut pas que je le perde. Donc, parfois, dans des conditions un peu invraisemblables, en pleine nuit, dans le froid, rentrer chez moi, dans l'Ain, dans mon village, eh bien, je jetais sur le papier l'essentiel de ce qu'il m'avait dit pour pouvoir après le reconstituer, quoi, bien sûr.
Vous vous disiez, il ne faut pas que je perde ça. Ça veut dire que vous aviez d'emblée l'intuition qu'il transmettait dans ses phrases courtes, parfois presque comme ça, assez définitif, tranchant, d'une forme de radicalité. Oui. Vous aviez l'intuition qu'il y avait quoi pour vous ? Pour vous, pour nous d'ailleurs, parce que finalement.
À cette époque, j'étais même pas encore capable, peut-être, de me rendre compte qu'il me disait des choses essentielles qui répondaient tout à fait à ma propre démarche. Et voilà tout ce qu'il m'a dit. C'est très curieux d'ailleurs, pourquoi suis-je allé voir cet homme dont je ne savais rien et pourquoi après je me suis trouvé de telles affinités avec lui. C'est très étrange, mais c'est la vie. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, en relisant un livre que pourtant je connaissais, que je connais très bien, mais dont évidemment j'avais oublié certains passages, il était dit que dans notre inconscient, il y a des événements préformés. Et après, quand on passe dans la vie, eh bien, ces éléments préformés vont nous conduire vers des êtres et des circonstances qui nous seront propices. Et c'est en cela que je pense avoir toujours eu beaucoup de chance dans toute ma vie. Et donc, j'ai eu une grande chance de rencontrer cet homme et le peintre qu'il était. Parce que comme il a toujours beaucoup souffert, eh bien, il savait sur la vie, il connaissait des choses sur la vie extrêmement aigu, central, vraiment, vraiment essentiel. Et c'est vrai que je buvais tout ce qu'il me disait.
Vous parlez souvent de grande chance, Charles Julliez. Vous parlez de chance dans votre rencontre à Bram Van Velde. Vous parlez de chance lorsque vous parlez de votre relation à l'écriture, publication.
Aussi.
Ouais. Oui. Souvent, vous utilisez ce mot-là.
Oui, ben c'est vrai. Et cette personne que je cite, Anya Teilhard, elle dit justement qu'elle ne croit pas au hasard, qu'il n'y a pas de hasard, et que finalement, en fonction de ce qu'elle me disait, de ces éléments préformés dans notre inconscient, bien, il y a un chemin qui se trace comme ça et que l'on suit sans trop savoir pourquoi, mais qui après se révèle extrêmement bénéfique.
Mais si on s'y rend disponible d'une certaine manière ?
Ah ben bien sûr, oui, il faut une certaine disponibilité, un abandon à la circonstance, à la rencontre, et puis aussi le désir de capter ce qui se dit, bien sûr. Mais là, je n'ai aucun effort à faire.
Je n'y vois rien. C'est qu'il n'y a rien. Ou que je n'ai pas Dieu. Ou les deux. Ça fait trois possibilités. Au choix. Mais n'y vois-je vraiment rien ? Ce n'est pas le moment de mentir. Comment ne pas mentir? En voilà une idée. Une voix pareille. Qui peut la contrôler? Elle essaie tout. Elle est aveugle. Elle me cherche. Dans le noir, elle cherche une bouche. Où se mettre? Qui peut l'infirmer? Elle est la seule. Il faudrait une tête. Il faudrait des choses. Je ne sais pas. J'ai trop l'air de savoir. C'est la voix qui fait ça. Elle se fait savante. Pour que je me croie savant. Pour que je la croie mienne. Les yeux ne l'intéressent pas. Elle dit que je n'en ai pas. Ou qu'ils ne me servent à rien.
C'est la voix de Michel Bouquet en 1963 qui lit pour France Culture l'innommable de Samuel Beckett. Vous dites, quand je suis arrivée à la porte de Bram Van Velde, Charles Julliet, j'étais dans une grande confusion, moi-même, et, dites-vous tout de suite après, je n'avais pas lu Samuel Beckett, qui était un grand ami. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un croisement entre la lecture de Samuel Beckett, dont
oui,
on entend
après,
ici un extrait.
Je ne sais plus comment les choses se sont présentées, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu Beckett, beaucoup, trop d'ailleurs peut-être, parce que ça a pesé sur moi pendant longtemps. Par ailleurs, c'est Bram qui m'avait suggéré d'aller voir Beckett. Je le revois encore très bien au cours d'un repas. Il pointe son index sur moi. Il dit, lui, il veut aller voir Beckett. Mais il n'ose pas. Mais Beckett... il ne refusera pas de recevoir quelqu'un qui a quelque chose à lui dire. Donc, voilà. J'avais écrit à Beckett et je l'ai rencontré. Voilà, à 4 reprises. Voilà. C'était aussi des moments très forts. Beckett, c'était aussi un homme un peu... à l'image de Bram, il parlait très peu, et ce qu'il disait, c'était des paroles très brèves, très concentrées, très fortes. Je me souviens qu'une fois où je lui avais dit « Mais enfin, ce que vous avez écrit, c'est-à-dire une œuvre, ça doit vous porter. » Alors, chaque fois, il réfléchissait quelques secondes, et il me dit « Non, non, je suis comme une taupe dans sa taupinière. » Il répondait toujours comme ça par des images très fortes. Hein, comme avec Bram, il n'y avait pas de conversation. Mais il répondait très volontiers aux questions, vous voyez.
Oui, d'ailleurs, ça sent dans ce que vous racontez, Charles Julliet. C'est pas, vous ne racontez pas de dialogue dans ce livre-là.
Non, il n'y a pas de conversation. Je n'ai jamais eu de conversation avec Bram.
Mais alors, comment ça s'appelle?
Il y avait beaucoup de silence, mais des silences qui étaient pleins aussi. Et je crois que Bram était toujours en train, c'était vraiment un contemplatif, il était toujours en train de penser, de ruminer des choses. Enfin, oui, oui. Mais parfois, s'il a été à des moments très sombres, je l'ai vu aussi très joyeux. Hein, très joyeux, oui, oui.
Oui, vous écrivez parfois, il me disait une phrase, et puis je l'entendais rire silencieusement, comme surpris de ses propres mots.
C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui était frappant. Il était surpris par ce qu'il me disait. Ce qui montre que ce n'était pas des choses qu'il récitait, qui étaient présentes dans sa mémoire. Il les découvrait pour me répondre, quoi, au fur et à mesure des questions. Mais je me souviens aussi une fois, c'était vraiment très très fort ça. On marchait dans la campagne et puis je lui dis à un moment, mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que la peinture? Alors il me dit, oh, la peinture, la peinture. Il réfléchit un moment, il me dit, ben, la peinture c'est un œil aveuglé qui voit et qui voit ce qui l'aveugle. Eh bien, ça, c'était un grand moment, quoi.
Quand vous vous adressez à Beckett en lui disant « Mais quand même, vous avez produit quelque chose qui s'appelle une œuvre, ça doit vous soutenir. » Et il dit « Non, je suis comme une taupe dans ma taupinière, c'est ça ?» Et on entendait la voix de Bram Van Velde qui dit « Une fois que j'ai fait le tableau, oui, je l'ai fait, mais il y a le vide qui revient devant moi encore
et
encore. »
Oui, oui, bien sûr, parce que il avait mis en forme ce qu'il cherchait à naître, et une fois la toile finie, bien évidemment, c'était un moment extrêmement fort pour lui, et après, bien sûr, il retombait, je dirais, dans le quotidien. Hein, un quotidien qui n'avait pas de quoi le nourrir, puisqu'il était toujours ailleurs dans sa recherche intérieure. Quoi. Mais c'était quelqu'un de vraiment singulier. Hein. Excusez-moi, mais... voilà. Et il m'avait dit, mais c'est tout dans le livre. En peinture, c'est tout ou rien. Si ce n'est pas tout, c'est rien. L'artiste est celui qui doit veiller sur son être. Et ça, il le vivait profondément. Quoi. Donc un homme comme ça, il est forcément dans une très grande solitude. Parce que il ne peut pas parler de ce qu'il vit avec des personnes qui ne sont pas engagées dans cette même aventure. Hein. Il ne pourrait être compris. Donc voilà, il était contraint de rester silencieux.
Oui, en même temps, vous deviez être sur le palier ou au seuil de cette grande aventure en 1964 quand vous vous présentez à lui, parce que vous le comprenez. Alors que vous dites très bien, Charles Julliet, oui, mais... j'étais confus, finalement même mon rapport à l'écriture n'était pas encore dans celui que vous pourriez décrire aujourd'hui. Alors vous soupçonniez qu'il y avait quelque chose en vous.
Je comprenais sans comprendre.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'au début aussi, je ne le voyais qu'une fois par an, parce que je ne le connaissais pas assez. Donc, et puis après deux fois, trois fois, puis après, bien sûr, c'est là que j'ai sans doute commencé à lui poser des vraies questions, bien sûr. Et je regrette beaucoup, beaucoup de ne l'avoir pas plus questionné. J'aurais voulu savoir plus de choses aussi sur son enfance. Mmh. Il a eu une enfance très malheureuse, parce que le père avait quitté la famille, il y avait quatre enfants, dont un frère Ger Van Velde, qui est aussi un très très bon peintre, sa sœur Jacoba, qui avait traduit Ionesco et Beckett en néerlandais. Et donc j'aurais voulu en savoir plus. Il parlait de son père avec beaucoup d'affection, en disant que c'était un peu comme un héros de Dostoïevski, qui n'arrivait pas à trouver sa place, si vous voulez, enfin, je sais pas, dans la société, qui était sans doute un homme très tourmenté, et qui peut-être revenait de temps à autre revoir sa famille, mais il est certain que la mère de Bram Van Velde faisait des ménages, et à l'époque, à la fin du 19e siècle, ça devait pas être très brillant, quoi. Et donc, d'emblée, il a connu la misère. Et peut-être que, par la suite, ça a pu l'aider.
Vous voulez dire quoi, Laurent, l'endurant, presque, voilà, de cette...
Mais quel courage, quelle ténacité aussi. Hein, mais en même temps, il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Il n'a fait qu'obéir à la nécessité qui était en lui. Hein.
Quand est-ce que vous avez découvert votre propre nécessité d'écrire, Charles Julliet ?
Bien, je crois que j'avais 24 ans. À l'époque, j'étais étudiant en médecine à l'école de santé, puisque j'étais militaire. Et donc, mais un jour, j'ai vraiment subi cette nécessité, et j'étais le premier surpris. le besoin mais impérieux de me mettre à écrire sans rien savoir de l'écriture, parce que je n'avais rien écrit, je n'avais aucune culture, et vraiment je me suis jeté dans le vide comme cela, sans savoir ce qui allait advenir, mais ça ne pouvait pas être une décision consciente, vous voyez. C'était quelque chose qui venait du profond de moi, mais que j'ai mis longtemps à apprivoiser, à connaître, et j'ai mis longtemps à comprendre ce que je cherchais à travers l'écriture. Vous voyez, au départ, je ne savais pas trop, je n'avais aucune idée, je pensais que j'allais écrire des romans, enfin je ne savais pas trop. Et puis progressivement, eh bien, je me suis enfoncé dans la rédaction d'un journal, sans même que j'ai un jour pris la décision de tenir un journal. Et ce journal, évidemment, il est indissociable de l'aventure que je vivais. Et c'est aussi grâce à cette écriture que j'ai pu préciser les choses, les découvrir. Et j'avais à m'enfoncer dans ma mémoire, dans mon inconscient, pour essayer évidemment de me clarifier, parce que j'étais vraiment dans une très grande confusion. Mmh.
Souvent, vous présentez l'aventure de l'écriture comme une aventure de compréhension, de clarification, de clarté.
Bien sûr, enfin, c'est ce que j'ai vécu moi. Hein. Bien sûr que là encore, je n'ai rien choisi, hein. Mais j'ai subi cela. Et au départ, j'ai vraiment vécu des années infernales, puisque j'avais ce besoin d'écrire et que je n'arrivais pas à écrire. J'avais trop de problèmes, trop d'émotions. Par ailleurs, j'étais écrasé par les grands peintres du passé et je m'apercevais que je n'avais aucun talent. Donc, ça a été des années vraiment difficiles.
Vous avez dit peintre, hein ?
Et en fait, j'ai mis 20 ans pour parcourir ce long chemin qui m'a conduit donc de la grande confusion après à mon premier journal publié aux éditions Paul, puisque j'ai eu la grande chance de rencontrer un éditeur qui était tout jeune, qui commençait et qui était assez audacieux, assez, je dirais, inconscient pour publier le journal de l'inconnu.
Oui, vous dites ça souvent.
Excusez-moi. Mais si je suis dans cet état, c'est aussi pour des raisons particulières. Donc, j'ai un état de... d'hypersensibilité. Parlez-vous.
On va même écouter les autres.
Peut-être faut-il n'avoir aucun romantisme de la folie et savoir que ce sont dans les moments de grande lucidité et de retour sur soi que peuvent se créer de véritables œuvres. Et ce ne sont pas dans des moments de désordre. Michaud en parle très bien dans les grandes épreuves de l'esprit. Il décrit très bien tous ces mécanismes. Et d'une certaine façon, ce qui m'a sauvé toujours, c'est de savoir qu'il y a un horizon qui s'appelle littérature, en fait.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Charles Julien.
On a chacun un livre devant les yeux. Charles Julien. Moi, j'ai un catalogue du Centre Pompidou de Paris. J'ai les tableaux de Bram Van Velde sous les yeux. Puis vous avez votre propre livre. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Vous cherchez quelque chose ?
Oui, non, je relisais un peu.
Vous voulez nous dire quelque chose ? Vous voulez nous lire quelque chose ?
C'est toujours ce qui dit ça. On se trouve sur un terrain où le savoir n'existe plus. Peindre, c'est toucher le vrai, c'est faire surgir la vision dont j'ai besoin. Il faut s'arracher à ce monde, à cette vie que nous menons. J'ai cherché à faire quelque chose qui soit dénué d'artifice.
Mmh. C'est quand même très présent dans vos, pas discussions, mais dans ce qui se passe entre vous, Charles Julliez et Bram Van Velde, cette question du vrai. Y a quelque chose qui, en tout cas, semble vous faire à tous les deux, probablement différemment, mais à tous les deux, sinon horreur, peur, ou je sais pas, c'est surtout de ne pas vivre faux. Ni de faire faux, ni de vivre faux.
En principe, oui, je lui avais dit ça. Et il m'avait répondu, il est vrai que l'art n'a pas toujours servi le vrai, soutenu le vrai. Et pour moi, l'art, la création, ça doit être justement un lieu où le vrai apparaît, où l'on est dans quelque chose de véritable, de pleinement vécu, vous voyez. Parce qu'on vit quand même dans une confusion, dans une grande confusion, hein, dans une société dont on a l'impression parfois qu'elle se délite. Et moi, j'aime à penser que l'art, c'est peut-être un lieu où l'on peut véritablement se ressourcer, trouver du vrai. Parce qu'on ne peut pas vivre sans être connecté avec le vrai qu'on porte en soi, avec ce besoin, avec cette intuition.
Mais vous écrivez très souvent, Charles Julliez, que c'est un chemin qui vous a pris énormément de temps, que de vivre comme ça au contact de l'existence, que de vraiment être dans la vie. Mmh. Je ne sais pas si c'est être dans le vrai, mais être dans la vie. Vous écrivez dans vos journaux, dans vos poèmes, que c'est le fruit d'un long chemin.
Ben oui, bien sûr, mais en même temps, dans ce domaine, il n'y a pas de règles. Je crois qu'il y a parfois des personnes qui, en vivant un événement très, très fort, très violent, tout à coup, si vous voulez, comprennent que peut-être ils étaient loin d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on vit souvent loin de sa propre humanité. On vit d'une manière un peu mécanique, un peu... Voilà, et justement, l'artiste, le peintre, l'écrivain, le poète, il doit tenter de rejoindre en lui ces moments de vérité-là.
Vous faisiez souvent face à sa peinture? Vous rendiez visite à sa peinture aussi?
Non, bah d'abord, je ne l'ai pas. Quoique, sur ce petit livre-là, je possède cette lithographie. Il m'en avait donné plusieurs, mais je les ai donnés aussi, alors. C'est pas bien malin.
J'ai l'impression que c'est presque plus que ce qu'il vous disait, ou ce qu'il était, que ce qu'il peignait, qui vous intéressait.
Ben oui, parce que moi, je suis plus sensible aux mots qu'à la couleur, qu'à la peinture. Mais c'est vrai que, parfois, j'ai eu de vraies émotions, mais face à ces toutes dernières toiles... qu'il avait peinte quand il était à Grimaud, là-bas. Voilà, je sentais vraiment ce qui s'était passé, là. Et même quelques-unes qu'il avait peintes à Carouge, près de Genève, qui étaient encore toutes humides du pigment sur la toile. Et là, j'avais vraiment senti quelque chose de fort, vous voyez. Mais une grande partie de son œuvre ne me touche pas parce que je pense qu'il ne s'était pas encore véritablement trouvé. Il était sur le chemin, il se cherchait, mais là, il n'y avait pas encore ce qui fait après, ce qui est assez indéfinissable. Sentir que la couleur qui est posée sur une toile est venue du plus profond de l'être et non pas d'un talent. Ça, c'est... Et je crois que, évidemment, les peintres, ils savent beaucoup mieux apprécier, discerner cela. J'ai un peu connu Soulages aussi, et j'ai remarqué qu'il a une acuité dans la vision tout à fait exceptionnelle. Il voit des choses qu'on ne voit pas, il sait les comprendre, les interpréter, et c'est vraiment impressionnant. Et on sent qu'il y a là, en fait, toute une vie... d'éducation de la vision, si vous voulez, hein, de l'œil. Ça, c'est très, très. Ça m'a beaucoup frappé quand je rencontrais Soulages.
Mais vous en parlez même en termes de transparence de l'être, qu'il arrive à un stade où l'artiste ne met plus d'obstacles à ce qui le traverse et où il devient comme ça une matière suffisamment souple et aérienne pour être uniquement traversée.
Il faut qu'il sache s'abandonner justement, et c'est très difficile parce qu'on ne peut pas vouloir s'abandonner, on ne peut pas vouloir être sans volonté, hein. Le non-vouloir, il doit surgir comme ça, enfin même pas surgir, non, se proposer lentement, et c'est ainsi qu'on peut s'abandonner, et dès lors, en s'abandonnant, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de désir, il y a simplement quelque chose qui cherche à naître et qui prend forme, quoi, vraiment.
Décembre 1974. Comme chaque hiver, il est sombre, peu enclin à parler. Mais à la joie qu'il manifeste à me revoir, je comprends à quel point il est seul et souffre de son isolement. Après le repas, ainsi que nous en avons maintenant l'habitude, nous allons nous promener. Grisaille. Campagne morte. Mais en bordure de la petite route, ces très vieux chênes que chaque fois nous admirons. Bram est tendu, angoissé. Long, lourd silence. De temps à autre, je hasarde une question. Et c'est à nouveau le silence. Puis après plusieurs secondes, qui peuvent parfois atteindre jusqu'à la minute, ce qui paraît singulièrement long, la réponse surgit. Brève, souvent percutante, émise avec une gravité et une force de conviction qui impressionnent. Ce qui fait défaut, c'est le réel. Je ne suis vraiment bien que l'été, dans le garage, le lieu où il travaille. Là, je suis véritablement nu. Je n'ai cherché qu'à être un homme libre. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour pouvoir respirer. Il n'y a là aucun mérite. Beckett me fit un jour la même réflexion, et je crois bien, avec les mêmes mots. Travailler, c'est avant tout ne pas faire. La vie de la plupart est une routine dirigée. L'artiste est celui qui cherche à vivre en liberté. Quand la vie surgit, elle est l'inconnu. Mais pour être capable d'accueillir l'inconnu, il faut être sans bagage.
Charles-Julien Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de votre livre « Rencontre avec Bram Van Velde ». Oui. Et ce que j'aime, moi, dans ce passage-là, ce sont à la fois les silences qui sont comme ça, comme des espèces de blocs de vie entre vous, mais aussi la dernière phrase que lit Romain, qui est encore et toujours cette notion de l'accueil, en fait. C'est pour pouvoir ne pas vouloir, il faut être sans bagage. Et finalement, je me dis, c'est quand même fou, parce que à la fois, c'est vous qui êtes sensible à cette idée-là, c'est lui, et j'ai l'impression que vous avez tellement de bagages, pourtant, vous avez tellement des existences qui pourraient être des bagages vraiment encombrants, en fait.
Oui, oui, qui ont été encombrants. Mais au fur et à mesure, on arrive à oublier, on arrive à désapprendre ce qui est essentiel pour arriver à parler avec sa propre voix et avec le ton de sa propre voix, comme un jazzman aussi. Un jazzman n'existe qu'à partir du moment où il a son son. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment là l'expression de sa personnalité la plus profonde.
Donc vous avez l'impression que vous vous êtes délesté pour aller vers votre propre voix ?
Non, non. pas délaissé, c'est simplement que...
Délesté ?
Délesté, ça s'est fait au long du temps, de soi-même. On ne peut pas vouloir non plus désapprendre. Se soumettre à l'imprégnation de l'œuvre de Beckett, ça ne se fait pas facilement. D'ailleurs, une fois, j'avais lu, je crois, que quand on apprend quelque chose d'important, il faut une certaine durée, et paraît-il que pour s'en libérer, il faut presque autant de temps que l'on a mis pour acquérir.
On dit ça des grossesses aussi. On dit 9 mois pour porter un enfant et à peu près 9 mois, voire plus, pour retrouver à peu près son état.
Ça me revient comme ça, je vous le cite à propos du taoïsme, où il est dit « Le Tao n'appartient ni à la connaissance, ni à la non-connaissance. La connaissance est un entendement erroné, la non-connaissance... j'ai oublié là. La non-connaissance.
La connaissance est un entendement erroné.
La non-connaissance. Je ne sais plus, il y a longtemps que je n'ai plus visité tout ça. C'est dans Chuang Tzu que j'avais écrit ça. Mais qui rendait très bien, en parlant de la connaissance et de la non-connaissance, c'est une espèce d'entre-deux qui ne peut pas se situer, pas se formuler, vous voyez.
Mais alors, ça veut dire que vous, ça veut dire que vous avez toujours fait dans cette dualité, c'est-à-dire se laisser imprégner par l'œuvre de Beckett ou par tant d'autres œuvres d'ailleurs, littéraires, et puis ensuite le temps égal, pourquoi, pour qu'elle vous quitte.
Bien oui, il faut beaucoup de temps pour que les choses s'éliminent, hein, les influences, bien sûr. Et elles mettent d'autant plus longtemps à s'éliminer qu'elles vous ont marqué profondément. Moi, l'œuvre de Beckett, elle m'a profondément marqué. Il y a Molloy, bien sûr, mais surtout L'Innommable, où là, on descend vraiment très très loin, quoi, dans... Je sais pas, peut-être, je dirais son chaos intérieur. Mais évidemment qu'après... Pour oublier tout cela, il faut du temps.
Le monde réel, c'est une telle... Une assaise, quelque part. Une assaise. Quand j'étais jeune, je trouvais ça que c'était une folie. Comme je ne suis pas devenue folle, ça doit être tout de même possible de vivre de cette façon-là. Mais je ne vis pas bien quand je n'écris pas. Je vis superficiellement. Je suis en stand-by de quelque chose. J'attends. Mais après avoir, quand j'ai terminé, je me dis, mais comment j'ai écrit ce livre? C'est incroyable. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est quand même mystérieux, c'est quand même étonnant d'écrire. Mais pas d'écrire un article ou ça, ça n'engage pas quelque chose d'extrêmement je veux dire quelque chose qu'on connaît pas.
Presque une voix de toute jeune fille, Annie Ernaux en 2014 au micro de Laure Adler, qui terminons un livre après tant de temps d'assaise, de solitude et de temps tout court, s'étonne d'avoir écrit ce livre, se dit « Tiens, mais comment ai-je pu écrire ce livre ?» Est-ce que vous avez ce même sentiment d'étrangeté ou d'étonnement à l'égard de vos écrits,
oui,
Charles Julliez ?
Oui, c'est relativement récent. Je n'ai écrit que 2 récits très autobiographiques, « L'année de l'éveil sur ma vie aux enfants de troupe » et « Lambeau sur mes 2 mères ». Et... récemment, j'ai compris que ces livres se sont écrits en avant de moi. Parce que là encore, je ne savais pas bien, et j'ai avancé comme ça dans l'inconnu. Et tout ça vient de l'inconscient, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, ce mot? Mais toujours est-il que ça n'était pas conscient, vous voyez. Même s'il m'a fallu beaucoup quand même de clarté. Mais je sentais que je n'étais pas encore désencombré de tout ce qui pesait en moi. Néanmoins, j'ai écrit ces textes qui tiennent à peu près debout, je crois. Eh bien, voilà, ça s'est écrit sans moi, d'une certaine manière, vous voyez.
Et pour autant, vous y reconnaissez quelque chose de vous, dans l'ambiance, dans l'année de l'éveil ? Absolument.
Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. D'autant plus moi qu'il n'y avait pas de censure, de contrôle. Vous voyez, les choses venaient et je les laissais venir. Quoi. C'est très difficile d'arriver à se mettre dans cet état de, encore une fois, de non-savoir et de total abandon. Quoi. Là, ça ne se maîtrise pas. Ça.
C'est-à-dire, peut-être juste un peu plus concrètement, Charles Julliet, vous vivez votre vie, vous vous réveillez, vous allez, je ne sais pas, au marché, ou peut-être vous avez un jardin, ou... et puis à un moment donné, vous sentez cet état-là ?
Ben oui, une fois, c'est comme ça que ça a commencé, Lambeau, je devais aller, j'habite à Lyon, donc je devais aller dans une autre bibliothèque pour entendre une conférence. J'étais habillé, j'ouvre la porte, et j'entends les mots qui sont au début de mon récit, je dis « Oh non, non !» Je me suis vite déshabillé, je suis allé à ma table, je savais qu'il fallait que je capte ce moment-là, vous voyez. Mais constamment, je suis à l'écoute de cette voix intérieure qui est en nous. Et même la nuit, elle me réveille. Parfois, j'ai écrit des textes, des notes de journal, je peux écrire toute une page dans ma tête, comme ça, la nuit, que je n'oublie jamais. Je ne me lève pas. Ou parfois, je peux me lever des mois après pour dire « Ah oui, tiens, ce mot-là, je me suis... j'ai pas été suffisamment conscient, il n'est pas suffisamment exact, il faut que je le change et je l'ai en moi. Je l'ai trouvé des mois après. » Alors que le texte en question, je ne l'avais pas revisité depuis longtemps, vous voyez, je l'avais totalement oublié. Mais voilà, c'est ce travail qui se fait, c'est ça le souci de l'écriture. Et ne vous lâche pas. J'écris beaucoup en marchant, dans les rues aussi, puis à tout moment. Ça vient, ou parfois il y a aussi les grandes périodes d'aridité, où on est sec, où rien ne se passe. Et là, moi je ne force rien non plus. Je n'ai jamais écrit une ligne qui ne m'ait pas été donnée, qui ne me soit pas venue de l'intérieur, quoi.
Est-ce que vous voulez bien qu'on termine par un poème ?
Ben oui, mais je suis un peu gêné parce que j'avais pas bien compris qu'on allait parler uniquement de Bram Van Velde. Je suis toujours un peu en dehors comme ça. Et j'allais lire un.
Eh ben c'est super, c'est exactement ce que. Regardez, moi aussi, je l'ai, Moisson.
Oui.
Ben oui.
On peut lire.
Ah ben oui, je crois, oui.
Non, c'est un poème. Pour moi important, où je dis des choses centrales, quoi. Parce que, bon, comme on sait, l'enfance pèse beaucoup dans la vie. Et, enfin, c'est ce que j'ai déjà expliqué par ailleurs. Mais un bébé qui est séparé de sa mère, il vit une rupture, un trauma extrêmement grave, qui peut avoir des conséquences sur toute sa vie. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Bien sûr, quand on est enfant, on ne le sait pas, mais c'est longtemps après, d'ailleurs que j'ai lu Winnicott, le pédiatre anglais, que j'ai compris tout ça, cette sorte de fardeau qui pesait sur moi. Donc là, j'ai ce poème, alors je vous le lis.
Avec grand plaisir.
Elle se souvenait. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis ce jour, mais elle se souvenait. Elle n'était alors qu'une enfant, mais cet instant s'était inscrit dans sa mémoire. L'été de la Saint-Martin épandait sur toute chose sa pâle lumière. Tu étais assise devant la maison face au jardin, et tu donnais le sein à ce bébé qui venait de naître, ton quatrième enfant. Couché dans le nid de tes bras, il tétait le lait de ta mélancolie. Un lait noir, amer, corrosif, qui pendant de longues années a déchiré son sang. L'a empêché de vivre, a installé en lui la peur d'être rejeté abandonné, voué à l'implacable misère d'un esseulement qui ne prendrait jamais fin. Épuisé, toi, la mère, tu n'avais plus la force de porter ton poids de souffrance, et très tôt, tu t'es retiré. Longtemps, une voix étouffée, pleine de terre, n'a cessé de le harceler. Comment peux-tu t'accorder le droit de vivre alors que tu as causé la mort de ta mère? Si elle a disparu, toi aussi dois disparaître. Il ne t'a pas connue, mais bien qu'absente, tu étais toujours à ses côtés. Dans la confusion, il a lutté, régurgité le lait noir, s'est construit contre ce qui vous a arraché l'un à l'autre. Et au long des si longues années, il s'est confié à la vie, s'est laissé pétrir par ses mains noires et ses mains blanches, a fini par adhérer de tout son être à ce vouloir vivre tenace qui, à son insu, l'a retenu de sombrer.
Le long du quai, les grands vaisseaux que la houle incline en silence.
Merci. C'est moi qui vous remercie, Charles Jouvet. Le poème que vous venez de lire est tiré du recueil Moisson, publié chez POL, et on a beaucoup parlé en effet de ce livre Rencontre avec Bram Van Velde, publié lui aussi chez POL. On se quitte avec la voix de Rosemary Stanley, qui sera notre invitée le 26 février prochain avec Dom la Nena. Au son ce soir, c'était Théo Gomard, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. C'est aussi une page sur franceculture.fr où retrouver les archives, les musiques et un petit endroit pour nous écrire. Enfin, c'est un podcast auquel s'abonner, par exemple, sur l'application Radio France. Dans un instant, 22h, le journal. Très belle soirée à toutes et à tous.
Dad.